dire quelque chose à tous les membres de notre équipe. Les gens de cette église m'ont connu avant que je parle français parfaitement. Oh non, attends, je ne parle pas parfaitement encore. Alors, mais ils m'ont connu lorsque je parlais aucunement français. Lorsque je vois la foule ici, je me souviens des heures par téléphone avec Joanne en train de traduire chaque étude pour le groupe de jeunes. Alors, c'est vraiment la joie pour nous d'être ici parmi vous encore une fois. Lorsqu'on montait le boulevard Raymond, j'étais tant d'être dans une différente char. Alors, je ne sais pas s'il avait des souvenirs que moi j'avais, mais j'avais une tonne de souvenirs en montant. On habitait autrefois à Saint-Bridget-de-Laval. On travaillait ici pendant 4 ans et demi pour former des leaders pour la jeunesse. On travaillait avec David et Julie, avec André et Joanne. C'était, et autres personnes. C'était vraiment un temps merveilleux, et on garde contact avec plusieurs de ces jeunes encore très régulièrement. Alors, on est très contents d'être parmi vous ce soir, et merci encore pour votre patience avec notre français au fil des années, et encore ce soir. Alors, on est contents d'être parmi vous. Alors, la chose que j'aimerais faire, en premier, j'aimerais chercher ma Bible. Et je vais probablement me déplacer un peu vers ici pour que je puisse bien voir l'écran. En parlant en même temps. Merci beaucoup. OK. Alors, j'aimerais vous demander de tourner dans vos Bibles à Acte 16, s'il vous plaît. Acte chapitre 16. Et si vous ne savez pas c'est où, c'est juste après l'Acte 15. Alors, si vous trouvez l'Acte 15, c'est juste après ça. Le premier voyage missionnaire qu'on connaît dans le Nouveau Testament, en détail, c'est le voyage de Paul et Barnabas. Paul et Barnabas sont partis en voyage missionnaire. Vous vous souvenez que Paul était appelé longtemps avant d'arriver en Antioche, mais lorsqu'il travaille dans l'église à Antioche, Dieu l'a appelé, donc lui et Barnabas, laisse-les partir. Laisse-les partir pour le travail que j'ai préparé pour eux. Donc, Paul et Barnabas sont partis. Ils avaient un voyage missionnaire extrêmement intéressant, extrêmement utile. Ils ont annoncé l'Évangile dans plusieurs endroits, évidemment, qu'ils n'ont jamais entendu. C'était un voyage magnifique. Alors, une chose qui est intéressante, je ne sais pas où je pointe ça, là, OK. C'est intéressant qu'après leur premier voyage missionnaire, lorsqu'ils sont revenus à Antioche, ils ont fait un rapport à l'Église de leur voyage, mais quelque chose qui me frappe, et que pour leur deuxième voyage missionnaire, ils n'avaient pas le même appel. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Pour moi, c'était quelque chose que j'ai remarqué pour la première fois. Ils avaient déjà eu l'appel, et pour leur deuxième voyage missionnaire, ce n'était pas comme le premier. Ils n'avaient pas eu le même appel. Ils n'avaient pas dû parler aux anciens églises, laisse-le partir, faire l'appel que je les avais déjà donné il y a longtemps. Cette fois-ci, c'est Paul qui disait à Barnabas, « Hey! » C'était tellement bien fun, dernier voyage, on était lapidés, on crevait de faim, c'était merveilleux. Alors nous voudrions faire encore un autre voyage missionnaire. Acte 15, 36 dit, quelques jours séculaires après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Alors ils ont décidé de partir, mais comme ça arrive malheureusement chez les chrétiens, des fois ils avaient une chicane. Alors, ils avaient une chicane, Paul et Barnabas, on ne va pas entrer dans tous les détails, c'était quoi la chicane, c'est une autre prêche. Mais dans cette chicane, finalement, ça ne marchait pas. Barnabas est parti dans un sens, Paul recherchait quelqu'un d'autre à partir avec lui. Alors, je me demandais, lorsque Paul recherchait quelqu'un à partir avec lui, est-ce qu'il faisait de la publicité comme nous, comme Jet? Je ne sais pas si vous avez déjà vu le dépliant pour le voyage en Espagne, mais vous verrez notre publicité. Alors, je me disais, si Paul faisait de la publicité, ça va être quoi exactement? Voyage missionnaire avec l'apôtre Paul. Manque de bouffe. Manque de sommeil. Bateau qui coule. Fouetté pour l'Évangile. Et finalement, tout pour être lapidé pour Dieu. Évidemment, son publicité ne marchait pas super bien parce qu'il y avait juste une personne qui a décidé de partir avec lui. C'était Silas. Alors, ils sont partis en voyage missionnaire. OK. Ils sont partis, mais la chose qui est arrivée est Dieu avait des différents plans. C'est ça que je trouve intéressant. Ils sont partis, ils ont passé par Lystre et Derbe, où Paul a été lapidé. Et là, ils ont trouvé Timothée. Après ça, tout leur plan qu'il avait a été changé. Regarde avec moi, Acte 16, 6 à 10. Ayant été empêché par l'Esprit Saint d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas.
Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul a eu une vision. En macédonienne lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous! » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. C'est intéressant à voir qu'ils avaient des plans. Ils décidaient d'aller quelque part et faire quelque chose pour le Seigneur. Mais lorsqu'ils sont arrivés, verset 16, « ayant été empêchés par l'Esprit Saint. » C'est intéressant. Ils ont voulu aller prêcher l'Évangile aux gens qui avaient besoin. Ils ont voulu aller prêcher l'Évangile aux gens qui ne connaissaient pas Jésus. Et Jésus, l'Esprit Saint dit, « Non, pas là. » Alors, ils disent, « Ah, mais c'est bizarre, c'est weird, là. OK, on va aller quelque part d'autre. » Alors, ils ont essayé d'aller quelque part d'autre. Vous voyez, c'est marqué encore une fois dans le verset 7, « Dieu a bloqué le chemin. » Arrivé près de la misée, il s'est disposé d'entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus a dit, « Non, les boys, vous n'allez pas y aller. » Alors, ils disent, « OK, bon. » Alors, ils sont partis. Finalement, ils arrivent à Troas. Troas, c'était vraiment au bout de l'île, là. C'est une péninsule. C'est comme arriver dans le village de Gaspé. C'est fini ton voyage, là. Après ça, tu retournes sur tes pas. Excepté si tu prends un bateau pour les îles de Madeleine. Mais à part de ça, vous êtes là, t'es au bout du chemin. Et probablement, Paul était aussi au bout du rouleau. Ils avaient des idées, ils avaient des plans pour Dieu. Dieu, on va faire telle affaire, on va retourner, on va faire ça. Ça va être comme le dernier voyage. Et Dieu a dit, non, ça va être pas comme le dernier voyage. J'ai des autres plans pour vous. Alors là, pendant la nuit, Paul a eu cette vision. Et ils avaient appelé d'aller en Europe pour la première fois avec l'Évangile. C'est intéressant que lorsqu'ils étaient arrivés au bout du ligne, là, Dieu avait leur attention. Je me demande si Dieu avait essayé de les montrer. Non, les boys, je ne veux pas que vous allez retourner dans la même place. Je sais pas. Mais finalement, rendu à Troas, il n'avait pas de choix. Et là, il avait leur attention. Ils sont partis en Europe. Alors, quelques réflexions. J'ai 6 ou 7 réflexions pour vous que j'aimerais vous partager. En premier. Là, je suis prêt. Une fois qu'ils ont compris l'importance de la mission, Dieu ne les avait pas donné un deuxième appel de le faire. C'est eux qui ont pris l'initiative. C'est intéressant. Souvent, les gens disent, mais j'étais appelé à faire une chose il y a quelques années, mais je ne sais pas. Mais si tu étais déjà appelé, Dieu ne donne pas des rappels. C'est juste Toyota, Ford, General Motors. C'est eux qui font le rappel, mais pas Dieu. Il ne fait pas des rappels. Une fois appelé, t'es supposé de continuer dans cet appel. Je ne sais pas pour les forces canadiennes. Je sais que Reynal était, je pense, tu étais dans les forces canadiennes? Non, OK, je suis trompé. En tout cas, quelqu'un ici était dans les forces canadiennes. Mais dans les forces américaines, on des règlements, si tu as eu une commande, tu continueras dans cette commande jusqu'à ce que tu aies une commande à changer la dernière commande. On n'a pas besoin de continuer à te parler et à dire à continuer. Si tu n'entends aucune nouvelle, tu continues. C'est intéressant que l'appel, le deuxième, il n'y avait pas d'appel la deuxième fois. C'est eux qui ont pris l'initiative dans leur appel. Deuxièmement, ils sont partis, mais capables d'être redirigés. C'est ça qui me frappe aussi. Comme vous savez, tout le monde qui a leur permis de conduire, c'est beaucoup plus facile de tourner une char qui roule qu'une char qui est assise. Surtout dans le bon vieux temps avant le power steering. Parce que là, c'était tough, là. C'était vraiment difficile de tourner ton char. C'est beaucoup plus facile de tourner un char qui roule qu'un char qui est assis. Ceux qui sont redirigés par Dieu sont des gens qui sont en train de faire quelque chose. Si tu es assis, si moi je suis assis sur mon divan, c'est très rare que Dieu m'envoiera un message, va faire telle affaire. Souvent, c'est ceux qui ont déjà impliqué, ils ont une idée, on va faire ça. Et Dieu dit, non, vous allez faire ça. C'est très plus facile d'être redirigé lorsqu'on est déjà en train de rouler. Aussi, de nous laisser être redirigés, ça veut dire que Dieu est au-dessus de son œuvre. Finalement, ce n'est pas mon œuvre, c'est son œuvre. Finalement, ce n'est pas mon église, c'est son église. Finalement, ce n'est pas moi qui décide, c'est lui qui décide. Lorsqu'on garde ça en tête, on garde la place de serviteur. Moi, je ne sais pas si vous le savez. Moi, j'ai un long arrière-plan des chrétiens évangéliques dans ma famille. Jusqu'aux années 1700. Pendant 200 ans, J'ai une arrière plan chrétien évangélique. C'est une énorme bénédiction. À cause de mon arrière plan chrétien évangélique, j'ai un papa qui était missionnaire pendant un certain temps, un grand papa qui était pasteur et président d'un séminaire, un beau-père qui est pasteur. Et je connais un ton de pasteurs. J'ai vu plusieurs choses dans les églises. Et une des choses que j'ai vues dans l'église, et des fois ça arrive que les gens deviennent plus attachés à leur œuvre de Dieu que le Dieu de l'œuvre. Ça devient leur projet personnel. Moi, je ne veux pas lâcher mon projet personnel. Si Paul et Silas avaient cette idée, ils vont avoir aidé. Finalement, Dieu a fermé les portes, on va retourner à Antioche. Ils n'ont pas oublié que Dieu est au-dessus de son œuvre. Que c'est Dieu, finalement, qui décide. Nous sommes ses serviteurs. On a des plans, on organise, on a des projets, mais c'est Dieu qui dirige et on le laisse nous diriger. Prochaine réflexion. Un besoin ne va pas nécessairement dire un appel. Il y a des besoins partout. Mais Dieu les avait laissés passer à côté des places qui avaient un grand besoin. Oui, c'est une chose de ne pas retourner là où ils étaient avant, parce qu'ils avaient déjà y prêché. Mais ils ont voulu aller dans d'autres places. Autres places ici, ce ne sont pas des places qu'ils ont visitées la première fois. Et Dieu a dit, non, 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 là oui. C'est intéressant qu'un besoin n'égale pas nécessairement un appel. On doit comprendre que Dieu va diriger certains de ses serviteurs à d'aller faire quelque chose qui n'est peut-être pas mon appel. On doit laisser Dieu diriger ses propres serviteurs. Encore une autre réflexion, il y a des gens encore plus loin. C'est très normal qu'on ait la tendance à penser de ceux qui sont proches de nous. Probablement comme vous, je suis le seul chrétien dans mon quartier. De ma connaissance, je suis le seul chrétien qui habite à Lac-Beauport. Il y a peut-être une autre, si vous connaissez une autre, tu me diras après. Mais dans mon rue, je suis le seul. Je sais parce que j'ai déjà essayé de parler à plusieurs au Seigneur et je n'avais pas eu la même réaction que toi, tu avais au travail. Ce n'est pas le même, là. Alors, nous devons comprendre que, oui, la tendance de regarder proche est bien normale. Mais nous devons aussi comprendre que Dieu a un amour pour ceux qui sont aux extrêmes de la terre. Le gars que je ne connais pas en Indonésie, qui est musulman, Dieu l'aime si beaucoup que mon voisin à côté. Et dans un pays comme l'Indonésie, où il y a plus que 100 millions de personnes et presque pas de chrétiens évangéliques, il y a des gens qui doivent y envoyer pour partager la bonne nouvelle. C'est très important. Page 2. Alors, voici le dernier commandement de Jésus. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrêmes de la terre. Souvent, nous avons la tendance à penser que nous ne sommes pas supposés d'aller évangéliser plus loin parce que nous, le Québec, nous sommes un champ missionnaire. Et je suis d'accord que nous sommes un champ missionnaire. Je suis venu ici, je travaille ici, j'ai appris le français, plus ou moins, et nous avons un ministère ici. Mais si nous croyons que c'est juste ici, on manque quelque chose. Parce que j'ai une question pour vous. C'était quoi le pourcentage des chrétiennes, des croyantes à Jérusalem, lorsque Jésus disait ça? Vous vous souvenez, c'était à la fin de son ministère. Après la résurrection, c'est finalement ses dernières paroles avant de partir. C'est quoi le pourcentage des chrétiennes? Oh non, tu le sais déjà, là. Je te laisserai pas répondre. C'était quoi le pourcentage des chrétiennes dans la ville de Jérusalem, lorsque Jésus disait ça? Taux de chrétiennes à Jérusalem, lorsque Jésus est parti. Je ne sais pas exactement comment décrire ce chiffre, mais pas beaucoup. 0,002%. Pas beaucoup. Donc, il y a des gens ici au Québec qui disent que nous, le Québec, on est 0,5% chrétiens évangéliques. Ce chiffre est basé sur, après l'assistance, dans la vaste majorité des églises évangéliques. Il y a autres sondages faits par Statistique Canada et Direction chrétienne de Montréal qui disent que non, le pourcentage est plus élevé, mais il y a beaucoup de chrétiens évangéliques qui n'assistent pas dans l'église. Aucune église, à cause d'amertume, à cause d'une chicane, à cause du fait qu'ils travaillent, à cause du fait qu'ils habitent loin. Et si vous réfléchissez un peu, probablement vous connaissez des chrétiennes qui ont arrêté d'assister à l'église, mais vous êtes convaincus, ils sont encore croyants. Alors, mais peu importe quel chiffre, mais Statistique Canada dit 3%. Si c'est 0,5 ou si c'est 3, peu importe, tous ces deux chiffres sont beaucoup plus élevés que ce chiffre-là. Et la chose qui m'a frappé, est que Jésus était en train d'envoyer ses disciples aux extrémités de la terre, là, il n'y avait quasiment pas de chrétiens dans la ville de Jérusalem. C'est frappant. C'est frappant que lorsqu'il n'y avait presque pas de chrétiens, il n'a pas dit, OK, mais il faut travailler ici pendant 20 ou 30 ans. Après ça, OK, on va aller à Judée après ça, mais en Samarie peut-être, on ne les aime pas trop, mais on va aller en Samarie. Et, mais peut-être dans 100 ans, là, on va envoyer des missionnaires loin. Jésus a dit, non, vous les croyants, nous les croyants, nous devons être en train de jongler la grande commission Jérusalem, Judée, Samarie, les extrémités de la terre au même temps. Impliqué à tous les niveaux. Ça, c'est vraiment l'appel de Jésus. Moi, je suis impliqué dans ma Jérusalem, ici. Mais je veux être impliqué aux extrémités de la terre, soit par le moyen de la prière, soit par le soutien missionnaire, soit en allant moi-même. Notre prière est que le Seigneur va envoyer une génération de jeunes Québécois et Québécoises d'ici aux extrémités de la terre. J'aimerais vous montrer un graphique. Ça, c'est le graphique des missionnaires évangéliques envoyés par million de personnes. Alors, vous allez peut-être vous demander, c'est où que vous avez trouvé ça? C'est nous qui l'avons créé. Laisse-moi vous expliquer. On a pris des 4 pays qui ont le même taux de chrétiens que nous et on a fait des recherches sur combien de, par rapport de leur population, combien de missionnaires évangéliques sont envoyés par million de personnes? Parce qu'on ne peut pas vraiment comparer Islande à Allemagne côté population, mais les pourcentages sont toujours les mêmes. 100%, c'est toujours 100%. Alors, j'ai mis 5 pays, incluant le Québec comme pays, comme le bon séparatiste que je suis. Alors, on voit Québec, Portugal, Irlande, Allemagne, qui est le jaune, et Islande, qui est le rouge. Évidemment, c'est... C'est pas trop joli lorsqu'on pense de la mission. Pour le Québec, c'est il y a 4 missionnaires par million de personnes au Québec, 4 missionnaires évangéliques. Ça veut dire après 28 missionnaires évangéliques québécois qui travaillent à l'extérieur de nos frontières dans le monde entier. On a une liste de tous les missionnaires québécois qu'on connaît. Ça va être une joie de vous envoyer la liste des missionnaires. Alors, là, j'ai regardé la liste. En premier, j'essaie de nous sauver en poule. J'ai dit, OK, mais non, mais attends. Islande et Allemagne, les gens ne comprennent pas que nous, au Québec, nous payons beaucoup d'impôts. On n'a pas beaucoup d'argent pour soutenir les missionnaires parce qu'on n'est pas si riche qu'eux et on paye beaucoup d'impôts, on paye beaucoup de taxes à la caisse. Et je me dis, attends, tu peux, là. En Europe, les impôts, c'est pire qu'ils citent. Les taxes, le VAT, qui a ajouté 20% à tout, c'est 24% à tout, OK, non, ça marche pas, mon affaire. OK, mais pour Portugal et Irlande, gars, nous avons un arrière-plan catholique. Et je me dis, attends, Irlande, c'est pas mal catholique. Même l'avortement était illégal, je pense, jusqu'à 99 en Irlande. C'est très, très, très catholique. Portugal aussi. Alors, lorsqu'on considérait ça, lorsqu'on voyait les chiffres, on avait une connaissance de ces chiffres, mais juste qu'on les avait mis sur papier, on regarde et on dit, « Ouais, on doit continuer dans cette œuvre que le Seigneur a mis devant nous. Nous avons une responsabilité à devenir impliqués aux extrémités de la terre. » Alors, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ça, c'est notre équipe qui va aller en Slovaquie cet été. J'aimerais vous inviter de prier pour nous. On est venu ce soir seulement pour vos prières. On n'est pas venu chercher de l'argent. On n'est pas venu chercher quelque chose d'autre. Parce que nous sommes convaincus que Proverbe 21-31 est vrai. Qui dit, le cheval de guerre est préparé pour le jour de bataille, mais la victoire, ça reste dans la main de l'Éternel. On va préparer cette équipe le plus possible. Mais acceptez si vous allez prier. Acceptez si les gens dans les autres églises vont prier. Rien de bon va arriver. On peut aller, on peut travailler, mais si le Seigneur n'est pas là-dedans, rien de bon va arriver. Donc, pour nous, de nous déplacer, de préparer un programme pour, j'espère, vous édifier, ce soir, on est venu, on a fait tout ça parce que nous voulions vos prières. Rien d'autre. À la fin, il y aura des jeunes avec les cartes de prière de ces groupes. Prends-le, prie pour nous. Participe avec nous, s'il vous plaît. Merci encore pour votre temps et votre hospitalité. David a dit 43 et j'aimerais ça. Alors, merci encore beaucoup. Et si vous avez des questions, on va être là, prêt à répondre à vos questions. Et c'est moi qui termine avec un mot de prière. Toi, tu vas venir?
Ouais.
OK. Merci encore, David.
Ouais, okay. Merci à toi, Jeff. Mais certainement, je voulais revenir. On peut prendre un temps déjà maintenant à prier pour vous et puis ce qui s'en vient. Et puis après ça, je laisserai la parole à Daniel pour nous conduire dans un dernier chant. Alors, prenons un temps pour prier pour Jeff. Pour les accompagnateurs, pour Tanda et pour la mission Jet. Seigneur, on vient devant toi pour te louer, pour t'adorer, pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Merci parce que tu, en nous sauvant, tu nous impliques aussi dans ta mission. Certainement que tu désires de nos vies nous utiliser, devenir des témoins, devenir des gens qui vont vivre leur foi et la divulguer, Seigneur, la partager aux gens qui en ont besoin. Et à chacun d'entre nous, Seigneur, certainement, tu nous confies aussi cette mission que d'être ces témoins dans notre entourage, mais aussi jusqu'aux extrémités de la terre. On veut te dire merci pour ta parole et on veut te placer entre tes mains toute l'équipe de Jet qui va partir bientôt avec cet été, que tu les bénisses, que tu leur donnes du bon temps, que certainement que tu te manifestes à l'œuvre autant dans leur vie que par leur vie aussi, de ce que tu vas faire et... Donne-leur un bon temps de formation, d'éducation personnelle et un bon temps aussi où ils vont avoir l'occasion de partager qui tu es, le Dieu vivant que tu es et l'amour que tu as pour les gens, même jusqu'à l'autre bout du monde. Alors, bénis-les, Seigneur, et prends-en soin. Dans le nom de ton Fils, qu'on te prie ces choses. Amen. Alors, merci encore de votre présence. Et Daniel, je suppose que tu es.